Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici l'heure d'une petite lue. Loin des armes du Moyen-Âge, c'est auprès de Sveinbjörn Balvinson, auteur contemporain, que les petites lues voyagent aujourd'hui. Certains pensent qu'il y a des histoires à cacher dans le froid de l'oubli. Mais si ce n'est les hommes qui les racontent, les objets finissent toujours par s'en charger. Ne dit-on pas que le froid conserve les secrets ? Icemeister, une nouvelle contée par Alexandre Chorderet.
Papa n'était jamais là. Nous autres, les enfants, frères et sœurs, ne le voyons jamais. C'est ce qu'il me semblait, on ne parlait presque jamais de lui, jusqu'à ce jour, je ne l'avais jamais vu que sur une photographie. Mais quelque part, au plus profond de moi, j'avais une image de papa. Je pouvais la convoquer à volonté. Parfois, elle venait simplement, sans se faire prier. Je peux la susciter maintenant. Papa est assis sur la chaise verte dans le séjour. La porte du balcon est ouverte sur l'obscurité. Il pleut. Le sol est mouillé de ce côté-ci du seuil. Je ne vois pas son visage, seulement sa nuque. Il se tient la tête entre les mains, car je vois le bout de ses doigts dans ses cheveux. Des cheveux foncés et bouclés. Rien à voir avec les miens. Jusqu'à cette nuit, je n'ai jamais su ce qu'il en était réellement de ce souvenir. Maga ne se rappelait de rien, maman ne voulait rien se rappeler. Néanmoins, elle ne niait pas qu'il s'agissait de papa. Maga et moi, nous découvrîmes de bonne heure combien cette absence de papa était pénible, une sorte de handicap. Chacun de nous était un être achevé en soi, mais en tant que famille, nous étions inaboutis. À l'époque, je pensais que rien qu'à nous regarder, on voyait que nous n'avions pas de papa. Je sentais ce regard, un mélange de compassion et de soupçon. Il m'a suivi toute ma vie. Quand Maga et moi allions à la boutique, j'avais le sentiment que tout le monde cancanait dans notre dos. Inutile d'essayer de me convaincre que notre papa pouvait être au travail. Il n'y avait de papa ni au travail ni à la maison. Il n'existait nulle part. Le pire, c'était le soir, au dîner. L'heure où les papas appelaient parfois leurs enfants. Nous rentrions souvent à la maison avant que maman n'ait à appeler. Uniquement pour que les autres enfants ignorent que papa ne pouvait pas le faire. Bien sûr, la plupart savaient que nous n'avions pas de papa. Mais tout de même, on réussissait à les abuser dans la période qui suivait l'emménagement dans le quartier. Notre papa pouvait être marin. Nous inventions des histoires sur son compte, ma sœur Maga et moi. Papa se transformait en courant d'air, en nuage. Papa tuait tous les ennemis. Papa mourait aussi. Papa nous causait des difficultés dans la vie et dans les histoires. Il ne pouvait pas en être. Voulait seulement la paix, très loin. Nous habitâmes d'abord dans les Hildar. Nous ne nous souvenons de rien. Papa s'en souvient. Je vois uniquement la maison de l'extérieur, une maison biscornue avec un étage et une cave, une pelouse devant et un jardin potager derrière. Une maison comme papa, marquée d'une absence pénible. La maison possède une dépendance carrée sur une moitié de la façade et une autre en arc de cercle sur l'autre. Il y a une chambre entre ces deux dépendances. Peut-être y ai-je dormi, cela m'est souvent arrivé. J'ai l'impression que toute mon enfance s'est passée à dormir dans des dépendances. Non, nous habitions au premier. Il était plus petit que le rez-de-chaussée et possédait un grand balcon avec une balustrade. Il y a longtemps de cela. Les années passent, une à une. Elles se sont amassées en nous, en papa, autour de papa. Quand je suis revenu de l'étranger, je me suis mis à travailler dans une entreprise de déménagement. Peut-être à cause de mon éternel manque de racines, je n'ai jamais su ce que j'avais envie de faire, ou d'être. J'étais dénué de tout, sauf de livres de poche et d'illustrés. Je suis passé par diverses universités comme un courant d'air, dans un bruit de vent et de claquement de portes. Et comme ces poètes morts qu'on étudie dans les écoles, je ne présentais jamais aucun examen. J'étais seulement parti de la maison. J'eus plus de chance pour l'appartement. Je louais un appartement mansardé à Tingolt. Je récupérais le vieux appareil ménager ici et là. Mon grille-pain avait servi à bord du Gullfoss. Ma machine à laver provenait d'une laverie où un homme avait été assassiné. Elle avait tout observé de son grand œil nuageux. Depuis, il y a toujours eu une petite fuite le long du hublot. Mais je n'avais pas de réfrigérateur. Ma gamme me téléphona du travail pour me dire qu'elle en avait un pour moi. Je me rendis chez elle en voiture. Des années auparavant, avec son mari, elle avait acheté une maison à peine terminée. Ça n'avait guère évolué depuis. Il n'y a toujours pas de véritable escalier pour gagner l'étage et aucune finition intérieure. Or, le mari de Maga, par ailleurs un maître à bien des égards au jeu d'échecs par correspondance, est terriblement sujet au vertige. Maga aussi. Il ne monte jamais à l'étage sans y être forcé. Par un incroyable concours de circonstances, Boggy, cette victime du vertige qu'elle a pour mari, est née à bord d'un avion au-dessus des fjords de l'Ouest. La vie est pleine de coïncidences. Ils vivent seuls, sans enfants. Comme je le disais, lui est un maître à bien des égards au jeu d'échecs par correspondance. Maga est comme elle. Il lui manque quelque chose, quelque part. Peut-être a-t-elle été blessée. Le réfrigérateur que Maga me destinait était à l'étage. Je ne sais pas comment il avait échoué là. Je n'ai pas demandé. Ça me semblait sans importance. En outre, les explications sont toujours longues et enchevêtrées. Au premier coup d'œil, je sus que ce n'était pas un vieux réfrigérateur ordinaire. Il n'y avait pas d'éclairage là-haut, seulement la lumière qui venait de la cage d'escalier. Maga s'excusa pour ce chantier. Un épais nuage de poussière s'échappa quand je me cognais à un bout de planche sur le palier. Mais dès que l'atmosphère s'éclaircit, j'entrevis l'éclat de ce monstre blanc et brillant. Ou cette statue de sel. Sur la porte était écrit en lettres dorées « Ice Meister ». J'appelai quelques gars avec le talkie-walkie et ils m'aidèrent à transporter le réfrigérateur jusqu'à la voiture. Puis nous nous rendîmes tous chez moi, dans ma nouvelle maison. Je conduisis en première et tout doucement pour qu'il n'arrive rien au réfrigérateur. C'était comme un convoi funéraire. Était-ce un présage ? Ce fut une affaire incroyable que de le hisser dans les escaliers. Les marches grinçaient, la rampe craquait, des relents de sueur persistèrent pendant plusieurs jours dans l'escalier. Quand les gars furent partis, nous restâmes seuls, tous les deux. Moi et ce réfrigérateur d'un poids stupéfiant. Faute de pouvoir le passer par la porte de la cuisine, je le laissais dans le séjour. Le haut touchait le plafond mansardé. N'ayant pas envie d'en faire davantage ce jour-là, je m'assis sur une chaise face au réfrigérateur. Le séjour se termine par une porte-fenêtre donnant sur le balcon. Je l'avais ouverte pour aérer et m'étais posé là, sur une chaise, regardant le ciel s'assombrir. Le jour se retirait en forme de carré régulier glissant le long du plancher. De plus en plus, au fur et à mesure que le soleil déclinait. La lumière dessinait des figures géométriques dans la poussière suspendue. Des espèces d'étoiles brunâtres scintillaient dans les cônes lumineux déformés. Au loin, on entendait la circulation du centre-ville et le bruit de l'aérodrome. L'odeur du kérosène pénétrait par la porte-fenêtre. Dans mon séjour, le moteur du réfrigérateur bourdonnait comme une petite centrale électrique. C'est le genre de moment que, d'une certaine façon, on trouve important, sans savoir pourquoi. Comme si l'on était dans un film, comme si l'on était un héros de roman, comme si l'on signifiait quelque chose. J'ai fréquemment éprouvé ça. Mais ce qui rendait cet instant tout à fait particulier, c'est que peu à peu j'en saisis le pourquoi, la cause. C'était la première fois que je rencontrais papa. Il était là, je pouvais presque le toucher, mais je ne le voyais pas. Bien sûr. Ma première réaction fut d'essayer de le faire disparaître. Je me remémorais divers épisodes tristes. Je les voyais défiler à toute vitesse. Maman levant les yeux en pleurant de la table de la cuisine, son épluche légumes à la main. Maman et grand-mère chuchotant par-dessus la table à repasser. Maman nous arrachant à Maga et à moi de grandes pantoufles que nous avions trouvées dans une armoire. Nous, en train de déménager, encore et encore. Le foyer, le poids de l'existence, le poids des ballots à descendre, les progrès de la macadamisation. Tout ça à cause de papa. Le grand camion de déménagement, le petit bleu, tout ça à cause de papa. Les meubles empilés, surmontés d'un réfrigérateur américain qui brille, le tout couvert de neige. Maman ne savait pas ça. Les premières semaines après mon installation, il ne se passa rien. Je faisais mes tournées en camion à travers la ville pour mon travail, comme d'habitude. Du mobilier, du ciment, de vieux habits dans les caisses pour la décharge, la télévision en noir et blanc, le soir, une séance de cinéma, rarement, une demi-bouteille d'eau de vie, et le bal, le week-end. De brèves aventures nocturnes avec des femmes ardentes et douces qui disparaissaient, blêmes et fatiguées dans les taxis poussiéreux, le matin. J'ai remarqué qu'elle ne lève jamais les yeux vers moi, postée à la fenêtre de la cuisine avant de monter dans l'auto. Elle s'assoit sans hésiter sur la banquette arrière. Voilà tout. Le taxi démarre et à un endroit donné dans la rue, la carrosserie de sa voiture renvoie sans pitié la lumière du soleil droit dans ma fenêtre. Cela arriva cette nuit-là. J'étais allé dans la cuisine pour prendre un verre de jus de fruits. Dans le lit, une femme endormie qui s'appelait Laura. Elle étudiait l'informatique. Elle ronflait. Nous étions rentrés ivres tous les deux. Trop ivres pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais nous l'avions pourtant fait. C'était à peu près aussi agréable que de s'installer dans un photomaton et d'appuyer sur le bouton, avec un résultat à l'avenant. Je m'assis sur la vieille chaise du séjour, sirotais mon jus de fruits en écoutant la rumeur de la nuit. Dehors, le jour venait, les oiseaux commençaient à pépiller dans les arbres. Alors j'entendis des voix humaines. Je dressai l'oreille, c'était un homme et une femme en train de parler, ou plutôt de se disputer. Furieux, un petit enfant braillait sans arrêt. Je me levai en essayant de discerner d'où venait ce bruit, il ne venait pas du dehors. Que la fenêtre soit ouverte ou fermée ne changeait rien. À l'étage du dessous, tout était silencieux également. Je m'allongeai par terre pour m'en assurer, mais lorsque j'étais étendu sur le plancher, je remarquai que le bourdonnement du réfrigérateur s'était tu. Pourquoi ? Je me redirigeai vers lui et posai l'oreille contre la porte froide et blanche. Je ne parvins pas à reconstituer ce qui se passa ensuite. Je sais que je devais être encore un peu ivre et sans doute plus fatigué que d'habitude. Je n'ai pas d'autre explication, mais soudain, je découvre que je ne suis plus dans mon nouvel appartement. Je ne tiens plus un verre de jus de fruits, mais un jouet, un petit camion. Je suis un petit garçon en proie à une peur mortelle, assis près d'un énorme réfrigérateur blanc dans une cuisine obscure. Je ne distingue pas les mots, seulement l'écho incompréhensible de voix furieuses et Maga qui pleure. Je me coule jusqu'à la porte et regarde dans le séjour. Papa se lève d'un bond de son siège vert, se rue vers maman, la bouscule. Elle tombe en heurtant le berceau. Il se met à rouler. Je vois tout cela très distinctement. La porte du balcon est ouverte. Il n'y a pas de balustrade. Je sais aussitôt ce qui va arriver. Le berceau roule, les roues grincent, le seuil est bas. Dehors, il fait noir. Je vois le berceau disparaître dans l'obscurité. J'entends le bruit sourd de sa chute. Maman regarde papa. Ça fait mal. Je sens un goût de fer dans ma bouche. Puis elle se met à courir. J'entends ses pantoufles claquer comme la foudre sur les marches de l'escalier. Papa se laisse tomber dans la chaise verte et se prend la tête entre les mains. La porte du balcon est ouverte. Le sol est mouillé de ce côté-ci du seuil. des cheveux foncés et bouclés. Rien à voir avec les miens. Après un court moment, il se lève et se dirige dans mon coin. Je me cache sous la table de la cuisine. Il ne me voit pas. Il ouvre le réfrigérateur, le vide et retire les étagères. Je ne vois pas son visage. La seule clarté vient de l'ampoule du réfrigérateur et il se tient devant. Son ombre géante se déplace au plafond de la cuisine comme un nuage noir. Une fois le réfrigérateur vidé, il tripote le thermostat. Le bourdonnement augmente. Il hésite un instant, puis il s'y introduit. Il s'accroupit, se tourne. Je le vois de profil, il transpire. Après quelques secondes interminables, sa main avec sa bague et la manche de sa chemise de nylon blanc se tend vers la porte et la referme en claquant. Je le vois faisant ça. M'a-t-il vu ? Je sors de sous la table en rampant. Je sens que je me suis pissé dessus. J'enlève mon pantalon de pyjama, le laisse dans le couloir et entre dans la chambre en courant. J'ai quelque chose de gros et lourd au fond de la gorge. Puis les événements se bousculent. Maman arrive. Elle tient un maga dans ses draps. Elles sont couvertes de sang. Elle m'habille et nous sortons en courant tous les trois, comme si la maison allait s'écrouler sur nous. Il pleut. Le berceau gît dans le jardin, brisé. La porte du balcon est ouverte. La lumière éteinte dans le séjour. Comme si nous étions à la maison. Comme si rien ne s'était passé. Rien. Jamais. Maman connaît le chauffeur de taxi et lui dit que papa a disparu, que la police est à sa recherche, que l'enfant semble presque intact, que c'est un miracle. Je ne dis rien. Pas un mot. J'ai repris mes esprits quand j'ai heurté la poignée du réfrigérateur. J'ai noté que je baignais dans une flaque, que j'étais épouvanté. En fait, ce n'était que du jus de fruits que j'avais renversé. Je ne sais plus bien ce que je devais faire. Laura ronflait encore dans le lit. Dehors, il faisait désormais clair. On entendait une radio quelque part. Une messe. Je m'habillais, me passais la tête à l'eau froide sous le robinet de la cuisine. Avant de sortir, je débranchais le réfrigérateur. Ça me semblait plus sûr, dans un sens. Puis je me mis au volant et partis, sans but précis. Mais inconsciemment, j'étais monté dans les Hildar. J'arrêtais l'auto en face de la maison biscornue et la contemplais un moment. Un camion de déménagement stationnait devant. Des gens s'installaient ici. Un jeune couple avec deux enfants. Je faillis courir vers eux pour leur dire d'arrêter, mais je me rendis compte de l'incongruité de la scène. Un homme parfaitement inconnu qui divague à propos d'un balcon sans balustrade et d'un cadavre dans un réfrigérateur. Je revins chez moi. Laura était partie. Je m'assis à la table de la cuisine et réfléchis. À moi, à papa, que j'avais enfin trouvé. Uniquement pour le voir disparaître. J'étais résolu à suivre son exemple et à disparaître pareillement, dans un nuage peut-être, ou dans le vent. J'aurais pu empêcher qu'il meure, mais je ne l'avais pas fait. Il n'avait jamais su que Maga avait survécu à sa chute. Je branchais le réfrigérateur, poussais le curseur au maximum, dictais mon annonce par téléphone. Réfrigérateur à vendre, renseignement à Bergastretti, etc. Il ne me restait plus qu'à demander à quelqu'un de transmettre mes salutations à maman et à Maga, et à vider les étagères. Mais comme toujours, quand il faut agir, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai envie de faire. Je descendrai peut-être plutôt faire une promenade, en bas vers le Tjörn, ou prendre une glace, et laisser le choc s'effacer tranquillement, doucement, dans le soleil. Ou bien je déposerai ce texte dans le freezer et je m'accroupirai moi-même dans le réfrigérateur. Bye bye. Je ne sais pas encore. Peut-être vais-je le savoir tout de suite. Peut-être jamais. Je suis assis sur la chaise. La porte du balcon est ouverte.
C'était Les Petites Lues, une série de nouvelles islandaises proposées et contées par Alexandre Chorderet, avec Mario Bompard à la réalisation. Vous pouvez retrouver cette nouvelle et ses références musicales sur le site de Radio Grenouille. Belle journée à tous sur les 3-8.